La plume.
La plume.
La plume.
La plume.
L'émission du Centre régional de sauvegarde
de la faune sauvage Cosona.
Chaque deuxième mardi du mois à 18h,
nous vous présenterons les activités et la vie de l'association. La plume. La plume.
La plume.
L'émission du Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage Cosona.
Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un oiseau plutôt méconnu par le grand public et qui est pourtant bien connu par le centre de sauvegarde. Il s'agit des busards. Donc deux espèces sont présentes sur le département de l'Aveyron, le busard cendré et le busard Saint-Martin. Bien que très similaires physiquement, il s'agit de deux espèces bien distinctes dont la survie dans le futur est remise en question année après année. Pour commencer, Cassandra vous fera la présentation des espèces présentes sur l'Aveyron et ensuite Hélène parlera des problématiques liées au busard et le rôle des centres de sauvegarde dans leur conservation.
Alors moi, effectivement, je vais vous parler de la présentation des espèces, en commençant par l'aspect physique. Donc comme nous disait Élodie juste avant, nous avons le busard cendré et le busard Saint-Martin. Donc c'est vrai que le busard cendré est facilement reconnaissable, tout simplement parce qu'il s'agit d'un oiseau dont le mâle est gris. Je pense que si jamais vous le croisez, vous le reconnaîtrez très facilement. Il a une silhouette plutôt svelte, affinée, et c'est un oiseau qui rase souvent les plantations dans les champs. Donc voilà, le mâle est gris et plutôt foncé, on va dire. Et sa particularité, c'est qu'il a ce qu'on appelle, nous, une barre à l'air. Donc c'est tout simplement une barre de couleur noire au niveau des ailes. La femelle, elle est de couleur marron. Et l'immature aussi, évidemment. En général, chez les rapaces, le jeune ressemble régulièrement à la femelle. Et au niveau du vol, on va dire qu'il se déplace au-dessus des champs et puis il va faire un petit peu des longueurs en cherchant ses proies, etc. Il a le croupion d'une couleur blanche, la queue barrée, donc barrée de couleur noire, donc on appelle ça des bandes transversales. Et la confusion peut être possible avec le busard Saint-Martin. Donc pourquoi ? Parce que le busard Saint-Martin, c'est, on va dire, presque la même chose. Le busard Saint-Martin, le mâle est gris aussi, et la différence, c'est que lui n'a pas de barre à l'air, donc il n'a pas de barre noire sur les ailes, il est totalement gris, on va dire. Évidemment, il y a des différences de couleurs un peu partout, mais c'est principalement comme ça qu'on peut différencier ces deux espèces-là. À savoir que les femelles aussi sont marrons chez le busard Saint-Martin aussi. Donc c'est vrai que la petite différence qui se constate beaucoup plus facilement dans des jumelles ou dans une longue vue, donc qui est assez compliquée à voir comme ça à l'œil nu de loin, c'est que la femelle du busard cendré aura un dessus roussâtre, ce genre de choses, et que j'ai un peu oublié, c'est qu'elle aura les joues noires, voilà, c'est ça. La femelle du busard cendré a les joues un petit peu noires, tachées de noir, alors que la femelle du busard Saint-Martin aura ce qu'on appelle un petit disque facial. Donc c'est un disque facial, ça va être tout simplement le visage qui est entouré. Au niveau de la taille, le busard Saint-Martin est un tout petit peu plus gros, à 52 cm face à 50 pour le busard cendré. Une envergure jusqu'à 115 cm pour le busard cendré et 121 cm pour le busard Saint-Martin. Le busard Saint-Martin sera à peu près à 700 grammes maximum et le busard cendré à 450, donc ça fait quand même une bonne différence finalement. Et le busard cendré peut vivre jusqu'à 16 ans alors que le busard Saint-Martin jusqu'à 17. Ensuite, au niveau des habitats, ça va être plutôt pareil aussi chez les deux espèces. Donc comme on disait, c'est vraiment des espèces quand même très similaires et pourtant un petit peu différentes quand même. Donc, où que soit le busard cendré, il va avoir un petit peu, pas forcément un habitat type. C'est vrai que chez nous, il va mettre la priorité sur les prairies, les champs, parce qu'il y a des conditions beaucoup plus favorables à la nidification et à la chasse. Alors que forcément, le busard Saint-Martin sera quasiment la même chose. Les deux vont un petit peu fuir les forêts et chercher un endroit, donc ces champs, où il y aura beaucoup plus de nourriture à disposition. Voilà. En Aveyron, vous les verrez rarement au-dessus d'une forêt, vous les verrez même pas au-dessus d'une forêt, vous les verrez vraiment dans les champs de culture, sans problème. Au niveau du comportement, tout simplement, le busard cendré est un oiseau migrateur. Chez nous, en tout cas, il arrive en avril et il repart août-septembre. Donc nous, au centre de sauvegarde, nous avons déjà commencé les prospections de terrain, donc les études d'habitat, voir un petit peu où sont les individus, etc. Et bon, c'est vrai que là, ils sont arrivés mi-avril, quoi. Ils sont arrivés pendant ce mois-là. Donc nous, on a pu constater déjà, des busards Saint-Martin pour le moment. Donc il reprend pas mal ses quartiers après, le busard cendré en hiver, en Afrique du Sud, du Sahara. En Afrique au sud du Sahara, excusez-moi, ou en Asie méridionale. Ce qu'il y a comme anecdote qui est plutôt sympa, c'est qu'en 2008 ou 2009, quelque chose comme ça, le plus grand dortoir de busard cendré a été trouvé. Donc avant ça, apparemment, il n'y avait jamais eu de dortoir trouvé à ce moment-là. Il a été trouvé au Sénégal. Et il y avait entre 1500 et 2000 individus. Donc ça fait une bonne population. Pour la petite info, il y a quand même aussi au Sénégal de grands dortoirs de faucons cresserellettes. Donc pour les naturalistes, c'est quelque chose à voir d'assez sympathique. Toujours dans le comportement du busard cendré, il chasse à l'affût et il vole très en basse altitude. Donc c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que on va le voir survoler de très près les champs. On le verra pas voler forcément plus haut, quoi. Après, il passe de champ en champ assez régulièrement. Il peut faire ça pendant plusieurs heures, tout simplement. C'est un oiseau qui est plutôt sociable, qui niche en colonie, c'est-à-dire que dans un même champ, on pourra avoir quelques nichées de busards cendrés côte à côte. Enfin, pas exactement côte à côte, mais bon, dans le même champ. Ce qui est quand même la différence avec le busard Saint-Martin. Parce que le busard Saint-Martin, au moment de la nidification, il devient plutôt agressif envers les congénères. Donc c'est vrai qu'entre chaque nid de ce busard Saint-Martin, il y aura quand même quelques champs de séparation. Ils ne seront jamais vraiment côte à côte. Voilà. Et pour chasser le busard Saint-Martin, c'est la même chose. Il vole à très basse altitude. Voilà, encore une fois, c'est quand même des espèces qui sont un petit peu similaires. Voilà. Ensuite, au niveau de l'alimentation, ça va être un petit peu la même chose aussi pour les deux. Le busard cendré et le busard Saint-Martin se nourrissent de petits mammifères, donc notamment des souris, des campagnols, des mulots. Voilà, pour ceux qui auraient une exploitation, vous inquiétez pas. Le busard ne chasse pas les chiens, les poules, ce genre d'animaux. C'est vraiment les micro-mammifères qui les intéressent le plus. Après, ils ont peut-être un petit peu l'habitude de temps en temps. Je pense que c'est vraiment un dernier recours, ce genre d'alimentation. Ça va être des petits passereaux, par exemple, ceux qui restent à terre, puisque, encore une fois, les busards ne chassent pas vraiment en hauteur. Donc, ça va être les petits oiseaux qui restent à terre, comme les alouettes, les bruants, les pipites. Après, il peut très bien aussi s'attaquer à des reptiles, donc les arvées ou jeunes couleuvres, ou des insectes. Et là, ça va être des insectes quand même assez de grande taille, donc des sauterelles, des criquets, des hannetons, ou même des carabes. Donc c'est quand même, ça fait partie de leur alimentation, c'est pas la principale, mais elle est là quand même. Donc finalement, pour ceux qui n'aiment pas trop avoir trop d'insectes chez eux, bah, c'est pas si mal comme oiseau. Et je fais un rappel avec une autre émission qu'on avait faite, comme la chouette chevêche, qui se nourrit aussi d'insectes. Donc pour ceux qui n'aiment pas ça, faut favoriser les habitats. Et il peut s'attaquer de temps en temps à des proies un tout petit peu plus importantes, comme des perdrix ou des faisans, une fois de temps à autre.
Little sigh, that's all you gave me. long gone. Is your caress, and with it all my happiness. But someday, baby, someday, darling, you're gonna miss me.
Toujours dans ma présentation des espèces de Buzard cendré et Buzard Saint-Martin, je vais vous parler maintenant de la distribution et après du statut. Alors, il existe deux autres espèces, à savoir au niveau de la distribution, deux autres espèces de Buzard qui sont présentes en France, le Buzard pâle et le Buzard des roseaux. Pourquoi on ne les présente pas ? Parce que pour le moment, il n'y a pas eu de confirmation quant à la présence d'individus nicheurs dans le département de l'Aveyron. Certains ont été vus quelques fois, mais... pour l'instant, on n'a pas de preuves de nicheur. Alors, le Buzard cendré, il est présent dans toute l'Eurasie. Donc, on peut aussi voir qu'apparemment, il serait présent aussi sur le continent africain. Donc, on peut constater que malgré une répartition aussi vaste, l'espèce est quand même en nette régression ces dernières années. Donc, les causes principales vont être la destruction des nids par les travaux de récolte des céréales, la chasse aussi qui arrive encore de temps en temps. Donc, en gros, ça va être la disparition des habitats aussi, tout simplement. En rappelant que effectivement le Buzard cendré aussi une distribution, il est quand même migrateur, donc c'est un oiseau qui part comme on l'a dit tout à l'heure pour l'hiver et qui revient en avril. Donc le Buzard Saint-Martin lui est présent également en Europe et peut-être apparemment sur le nord de l'Afrique. Sa différence, sa plus grosse différence avec le Buzard cendré, c'est que lui est sédentaire, donc forcément il ne part pas, en tout cas il part pas bien loin pendant l'hiver. La régression de l'espèce, c'est exactement la même que pour le Buzard cendré, puisque ce sont des espèces qui jouent un petit peu dans la même cour, on va dire. Donc c'est vrai que ce sont des animaux qui sont pas mal en danger aussi, comme beaucoup d'autres espèces en ce moment. Je pense que tout le monde lit l'actualité, donc sait qu'il y a pas mal de problèmes au niveau de la biodiversité. Pour leur statut, ça me semble évident de rappeler du coup que ce sont tous les deux des espèces protégées. Pour un petit coup de législation, ce sont des espèces inscrites à l'annexe 1 de la directive oiseaux de l'Union européenne. Donc ça implique que, pour ceux qui ne le savaient pas encore, cette annexe 1, de toute façon la protection des oiseaux, enfin des animaux tout court, ça implique l'interdiction de détruire, mutiler, capturer, enlever ou perturber intentionnellement ou de naturaliser, de détruire ou d'enlever des œufs, des nids et de détruire, altérer et dégrader les milieux de ces animaux-là. Donc c'est très réglementé, très protégé et ces lois sont encore plus vérifiées au moment des périodes de reproduction. Justement la reproduction, donc c'est le petit chapitre suivant. Les couples de Buzard cendré se forment quand l'oiseau atteint l'âge de 2 ou 3 ans. Et en général, le lien dure pour la vie. Donc, c'est souvent les mêmes couples à vie. Leurs nids, qui sont souvent de petite taille, qui ne sont pas vraiment un nid, donc toute petite taille pour le coup, est construit à terre dans la végétation herbacée. Donc, ça explique pourquoi est-ce que les couvées sont menacées au moment de la fauche. En mai-juin, les femelles pondent 3 à 5 œufs et l'incubation dure entre 28 et 30 jours. Et les jeunes busards quittent le nid en marchant. Ils ne volent pas directement, ils marchent. Donc on peut les apercevoir en train de faire le tour des champs au bout de 3 semaines. Et l'envol se fait au bout de près 40 jours maximum, on va dire. Ils nichent au sol et ils ont besoin d'un petit couvert herbeux d'au moins 30 cm de hauteur. Donc c'est vrai qu'ils ont quand même quelques caractéristiques propres à l'espèce. C'est un petit peu pareil pour le busard Saint-Martin, qui lui garde le même territoire d'année en année, normalement. Effectivement, toujours la destruction des espèces ou des habitats fait que ils sont obligés de s'adapter régulièrement à ce qui se passe autour d'eux. La femelle construit également un nid au sol, en tout cas, 9 fois sur 10, 9,6 fois sur 10, sur des genêts aplatis. Elle emploie souvent des herbes sèches, des petits rameaux. Elle fait un petit peu comme elle peut avec ce qu'elle trouve. Et vers fin avril, elle va déposer 4 à 6 œufs dans le nid. Donc l'incubation commence à partir du deuxième ou troisième œuf. Et c'est la femelle qui assure au début la permanence avec le mâle qui va prendre le relais assez régulièrement par la suite. C'est assez marrant parce que ça reste quand même des petites différences, mais qui notent bien les espèces chacune. Et ça rappelle une petite anecdote, je crois, dont on en avait parlé, Hélène, si tu te souviens, l'année dernière, du busard, par exemple, cendré, qu'on avait accueilli l'année dernière ou en 2017, dont la femelle avait continué de nourrir les petits en attendant de retrouver le mâle en Lozère. Donc c'était assez sympathique et ça note quand même que c'est une espèce qui essaye de survivre malgré tout.
Bon, du coup, moi je vais vous parler un petit peu de la problématique qu'il y a autour des busards. Donc comme l'a dit Cassandra précédemment, les busards, que ce soit les cendrés ou les Saint-Martin, ils nichent au sol et souvent dans les cultures. Donc ça peut être des cultures dans notre région de Luzerne, Régras, ou parfois quand c'est des pontes un petit peu tardives ou des pontes de remplacement, quand la première niche a été détruite, dans des champs de céréales aussi, et, ou sinon dans des landes, donc c'est avec des landes à genêts, buissons, enfin voilà. Alors le problème, il se pose lorsque la nichée est pondue dans les cultures, parce qu'en fait la période de reproduction de ces espèces tombe en même temps que le fauchage des champs. Et puis ça arrive aussi parfois que ce soit dans les landes qu'il y ait des problèmes, parce qu'il peut y avoir par exemple des travaux d'éco-buage qui peuvent mettre en péril la nichée. Alors du coup, pour faire face à cette problématique, comment on peut faire pour protéger ces busards? Alors ce qui est fait beaucoup, dans beaucoup de départements, un peu partout, déjà c'est l'observation. Donc dans l'Aveyron, on a plusieurs associations qui s'en chargent. Il y a la LPO Aveyron et puis SOS Busard. Et puis nous, avec le centre, on en fait un petit peu, mais on a moins le temps puisqu'on a une autre activité principale. Mais du coup, l'observation, ça consiste à repérer les individus, les couples, et puis de déterminer où sont les nids en les voyant se poser dans les champs. Donc, une fois qu'un nid a été repéré, en fait, ce qui est fait, c'est que l'agriculteur ou le propriétaire de la parcelle du champ, et on le rencontre. Et puis on l'informe du coup qu'il y a un nid, et puis on lui demande à quelle date il a prévu de faucher. Et puis on lui demande l'autorisation de pouvoir venir installer une protection autour du nid, un petit peu avant la date de la fauche. Alors la protection autour du nid, en fait, c'est un grillage. Alors les dimensions, je me rappelle plus, mais bon, c'est autour de 5 mètres sur 5 autour du nid. Et puis aussi, on met une petite clôture, un poste électrique, en fait, parce qu'une fois que le champ il a été fauché autour de ce carré grillagé, le petit carré qui n'est pas fauché autour du nid, ça devient super visible pour les prédateurs. Donc voilà. Donc une fois que on a rencontré l'agriculteur, il y a plusieurs possibilités. En fait, soit il refuse la protection, ça l'embête devoir manœuvrer autour du nid. Alors dans ce cas-là, les œufs, ça arrive très rarement. Hein. Les œufs sont récupérés et transportés au centre de sauvegarde. Après, bah, sinon, bah, voilà, il accepte. La protection, elle est mise en place quelques jours avant la fauche. Et puis, le jour du fauchage, il y a des observateurs qui viennent et qui vérifient en fait, que le couple revient bien après le passage de la machine. Parce qu'il arrive qu'en fait, les adultes soient effrayés et puis ne reviennent pas. Donc, on attend une heure ou deux en fonction de la température. Enfin, s'il fait très froid, il ne faut pas attendre trop longtemps pour que les œufs ne restent pas trop frais. Et voilà, donc soit bah, la protection réussit et du coup, bah, les jeunes sont élevés naturellement par leurs parents dans le champ et c'est super. Soit ça arrive bah, voilà, qu'il y ait l'abandon du nid. Dans ce cas-là, la nichée, elle est prélevée et elle est transportée dans un centre de sauvegarde aussi. Alors après, bah, pour alors voilà, la récupération des œufs pour rapport au centre de sauvegarde... Il ne faut pas transporter les œufs n'importe comment. En fait, bon, déjà, les nichées, elles sont prélevées vraiment en dernier recours. C'est, transporter des œufs, ça a beaucoup de chances d'échec. Ça peut arriver que en fait, les nids n'aient pas été repérés à l'avance et qu'un en fait, agriculteur en fauchant se rende compte au dernier moment pauvre, que les adultes s'envolent. Et du coup, s'arrête et puis va trouver la nichée. Donc, dans ce cas-là, ça peut arriver à tout le monde. Il ne faut pas prélever les œufs n'importe comment. Il vaut mieux contacter une structure qui a l'habitude de le faire parce que les œufs, c'est extrêmement fragile. Enfin, je ne parle pas de la coquille. Hein. La coquille, elle est solide comme les œufs des poules, mais c'est l'embryon à l'intérieur. Donc, une mauvaise manipulation peut être fatale. Alors, du coup, pour la réussite de l'élevage, c'est vrai que le transport, c'est un élément hyper important. Les œufs, ils doivent être manipulés avec le plus de précautions possible. Il faut porter des gants, parce que les œufs, ils ont des pores, ils respirent. Il ne faut pas toucher avec les mains sales. Après, on les transporte dans des boîtes d'œufs qu'on rembourre de coton. Alors, en plus, il ne faut pas les mettre dans n'importe quel sens. Hein. Par exemple, si on les pose comme on met des œufs de poule quand on les achète, l'embryon, il est foutu en arrivant. Hein. Après, ces boîtes d'œufs remplies de coton, on les met dans une couveuse portable pour vite les mettre au chaud, qui elle-même est remplie de coton, de tissu, de serviettes pour amortir tous les chocs possibles. Bon, après, sinon, quand il n'y a pas de couveuse portable, on peut faire dans une glacière avec des bouillottes, mais là, on ne gère pas la température. Donc, voilà. Après, bon, ben, on essaye d'effectuer le trajet le plus court. Si on doit passer par des chemins en terre, il vaut mieux le faire à pied, hein, parce que les secousses... ça pourrait tuer les embryons aussi. Et c'est important, c'est aussi d'être deux pour effectuer le transport, parce que la glacière, si elle est posée sur le siège, pareil, il y a trop de vibrations, ça ne marche pas. En fonction de depuis combien de temps ils sont couvés, les œufs, les embryons risquent de mourir. Donc c'est bien d'être deux et qu'il y ait une personne qui porte la glacière tout le long, qu'elle ne la pose pas sur ses genoux, mais la soulever. Enfin bon, voilà.
After I count down three rounds in hell, I'll be in good company. company.
Alors, une fois les œufs arrivés au centre, on va faire plusieurs choses. Alors, la première, c'est qu'on va mesurer les œufs, la longueur et la largeur. On va les peser. On va les passer au buddy. Alors, c'est un instrument, une boîte, en fait, qui nous permet de détecter les pulsations du cœur des embryons. Donc, ça nous permet de voir si l'embryon est toujours en vie. Alors, bon, après, c'est embêtant. C'est parce que ça ne marche pas. Si l'embryon est trop petit, s'il a moins de 10 jours d'incubation, ça ne marche pas. Donc, on n'est pas toujours sûr. Et après, on va les mirer aussi. Donc, les mirer, c'est une lumière qu'on utilise, une lumière spéciale, pour regarder à travers la coquille et puis pour voir déterminer l'âge des embryons, voir si l'œuf est fécondé ou pas, et voir l'âge de l'embryon. Alors, c'est assez difficile sur le busard parce qu'en fait, la coquille est assez épaisse. Il y a des espèces sur lesquelles on voit super bien à travers, c'est génial. Et puis, bon, le busard, c'est super compliqué. Il faut le faire pendant des années avant d'essayer d'arriver à voir quelque chose à travers. Bon. Voilà. Donc, tout de suite après ça, on les met dans une couveuse où là, on paramètre la température et l'hygrométrie qu'il faut. Pareil, ça, c'est des paramètres qui sont différents selon les espèces qu'on va incuber. Donc, dans la couveuse, les œufs, ils sont posés sur des plateaux entre des rouleaux. Et en fait, la couveuse, elle est programmée pour faire rouler les œufs en fait, entre les rouleaux avec des intervalles réguliers. Parce qu'en nature, les adultes en fait, font tourner les œufs régulièrement sur eux-mêmes. Et voilà, c'est une manipulation qui est nécessaire au développement des embryons. Alors, je sais qu'il y a des centres aussi qui n'utilisent pas la rotation de la machine et puis qui le font manuellement aussi. Voilà, toutes les heures ou toutes les deux heures de tourner chaque œuf d'un quart de tour. Bon, ça, tout le monde fait différemment, mais tant qu'ils sont tournés. Voilà, alors après, au niveau du suivi, tous les deux jours. Peut-être qu'il y a des centres qui le font tous les jours. Nous, on le fait tous les deux jours pour éviter trop de manip. Tous les deux jours, on pèse les œufs donc sur une balance précise et à heure fixe toujours. Et toutes les mesures et les pesées, elles nous permettent de contrôler après le bon déroulement de l'incubation. En fait, naturellement, un œuf, il perd régulièrement du poids tout au long de son incubation. Il doit perdre entre 15 et 17% de son poids pendant l'incubation. Du coup, nous, on pèse et après, les poids, on les rentre dans un logiciel informatique. Et après, les résultats, ils sont exprimés sous forme de courbe. Et ça nous permet de vérifier s'il y a une perte de poids qui est régulière et normale, entre guillemets. Mais du coup, si on voit qu'ils perdent trop de poids, on sait qu'il va falloir jouer sur l'hygrométrie, augmenter l'hygrométrie dans la machine. Et puis, s'ils n'en perdent pas assez, par exemple, baisser l'hygrométrie. Si d'un coup on s'aperçoit aussi d'une perte trop importante, trop brutale, il peut y avoir plusieurs choses. Soit bon, c'est un embryon qui est mort et du coup ça s'est mal passé. Soit c'est un œuf clair, donc qui n'a pas été fécondé. Ou ça peut arriver aussi, ça nous est déjà arrivé, en fait un œuf qui est fêlé. Alors bon, je disais tout à l'heure que c'était très fragile, mais on a quand même des surprises des fois. On a déjà eu des œufs fêlés donc, qu'on a réparés avec de la cire et qui ont éclos. Hein, donc ça peut marcher. C'est assez incroyable. Donc là, après, on rebouche et puis on repèse tous les jours et puis on voit que le déroulement se passe bien. Voilà, donc après, quand la date de l'éclosion qui est prévue, elle approche, les œufs, ils sont contrôlés plusieurs fois par jour. Bon, on les touche pas, mais on les regarde de près pour pouvoir déceler le pipe. C'est le moment en fait où le poussin il va piquer faire son premier picot dans la coquille pour sortir. À partir de ce moment-là, on arrête direct les roulements automatiques parce que je crois que sortir d'un œuf, ça a l'air d'être un effort vraiment énorme. Et si en plus on les laisse dans les roulements, les pauvres, ils risquent de s'épuiser à essayer de sortir. Donc déjà l'éclosion, elle met 12 à 48 heures. C'est assez long. Et à partir du moment où il y a le pipe, c'est assez sympa. On entend dans les œufs, on entend le poussin qui piaille déjà. C'est rigolo. Voilà.
C'est à ce moment-là qu'il faut ne pas communiquer, pas parler à côté des œufs, puisque sinon c'est l'imprégnation. Et...
commence avant même avant même la naissance. Ouais. Donc voilà. Après, une fois qu'ils sont nés, on les pèse directement et puis on les passe en éleveuse. Donc ça, c'est une autre machine, pareil, où on règle la température et puis l'hygrométrie aussi. Parce qu'en fait, les petits poussins, quand ils sont en duvet, ils ne savent pas encore réguler leur température. Dans la nature, les parents continuent à les « couver », entre guillemets, quoi. Donc on les met là-dedans et on ne les nourrit pas au début. Alors on les sépare individuellement, on les met dans des bacs séparés pour qu'ils soient tout seuls. On ne les nourrit pas pendant 24 à 48 heures. Et on attend en fait qu'il y ait la première fiente. C'est pour ça qu'on les sépare, c'est pour être sûr que ce soit bien le poussin qui est fianté. On nourrit jamais les poussins avant ça, parce que sinon, pareil, c'est fatal. Hein. Faut pas le faire. Donc pendant tout le temps où il va sortir de son œuf, entre le pipe et puis le moment où on va commencer à le nourrir, en fait, il va utiliser sa réserve vitelline. En fait, c'est le vitellus, c'est le jaune d'œuf. Donc en fait, c'est une réserve hyper protéinée qu'il utilise pour avoir la force de sortir de l'œuf et puis tenir les 24 premières heures. Donc une fois qu'il a fianté, on va commencer à le nourrir et on va le mettre avec d'autres poussins d'âge à peu près égal. Après, ils peuvent avoir quelques jours de différence. Savoir que chez les busards, un busard qui a 3 jours de différence, il va faire le double de celui qui est né. Hein. Déjà, c'est déjà des grosses différences. À partir de là, on va les peser tous les jours. Entre le moment en fait, où le poussin il sort de l'œuf et le moment où on va commencer à le nourrir, c'est normal qu'il perde un petit peu de poids, puisque il utilise ses réserves, il fiente. Mais à partir du moment où on a commencé le nourrissage, les poussins ne doivent plus jamais perdre de poids. Donc on fait super attention à ça. S'il y a une perte de poids à un moment, c'est qu'il y a un problème et qu'il faut trouver ce que c'est. On nourrit dans la mesure du possible, quand on en a plusieurs, toujours en fratrie. Comme ça, ça évite l'imprégnation des jeunes qui s'habituent trop à l'homme. Alors les plus âgés qui se débrouillent mieux que les petits qui viennent d'arriver, en fait ça sert d'exemple aux autres, donc c'est super. Le nourrissage c'est assez rigoureux, on doit les nourrir au début toutes les 3 heures, et puis à partir de la 2e semaine on espace toutes les 4 heures. À partir de la 3e semaine ils mangent seuls, on passe à même pas 2 repas, mais 2 à 3 repas par jour, mais tout seul. Et ouais, après 3 semaines... on les nourrit plus qu'une fois, le plus discrètement possible. Là, ils sont passés en extérieur. Et on les laisse tranquilles parce que, du coup, ils sont passés... quand ils approchent de l'âge de l'émancipation. Donc, tout à l'heure, Cassandra a dit qu'à partir de 30 jours, à peu près, ils se déplacent. Et puis, 35 jours, ils prennent leur envol. Donc, nous, vers 25 jours, on les place dans un taquet. Alors, un taquet, c'est un enclos. Alors, ça va avoir différentes formes suivant l'espèce qu'on va relâcher. On en a parlé aussi dans l'émission sur la chouette chevêche. Donc pour les busards, évidemment, c'est un taquet qui est au sol, puisqu'ils nichent au sol. Et donc on les enferme là-dedans au début. Ils ne sont pas encore volants. Et du coup, après, on ouvre et du coup, ils sont libres de se balader au début à pied et puis de s'envoler. On continue à nourrir dans ce taquet pendant le temps qui est nécessaire à ce qu'ils arrivent à s'émanciper totalement, à chasser assez de nourriture pour s'en sortir. Donc nous, pour le centre, on fait un partenariat avec l'association SOS Buzard. Donc il y a un taquet donc, qui est installé sur le terrain de la présidente de l'association. Alors au niveau des accueils au centre, jusqu'en 2016, on recevait beaucoup d'œufs de Buzard. Chaque année, on en recevait et élevait entre 20 et 50 chaque année. Donc qui provenaient soit de l'Aveyron, soit de la Haute-Loire. Alors depuis 2016, on n'a plus eu un seul œuf. Alors ça s'explique par plusieurs raisons. Déjà, il y a le centre de sauvegarde de Clermont-Ferrand qui s'est équipé de couveuses et d'éleveuses. Donc en fait, tous les œufs qui provenaient de Haute-Loire partent à Clermont-Ferrand. Ça évite de faire un trajet trop grand et voilà, d'abîmer les œufs. Et voilà, après, bon, on en reçoit plus non plus de l'Aveyron depuis 2016. Alors bon... On peut se dire aussi que c'est parce qu'il y a beaucoup plus de protections qui ont été faites, des nids qui ont été protégés et une meilleure réussite de ces protections. Donc ça, c'est super chouette. Il y a aussi le fait que les agriculteurs sont plus sensibilisés, qu'il y en a de plus en plus qui font la démarche et qui... Enfin voilà, donc ça, c'est hyper chouette aussi. Après, malheureusement, bah, il y a aussi une baisse des populations qui est assez flagrante. Voilà.
Donc, du coup, pour finir, si vous observez un Buzard régulièrement, si vous le voyez toujours au-dessus des mêmes champs ou que vous repérez un nid, il est important de contacter les structures en charge de leur suivi dans le département de l'Aveyron, c'est-à-dire SOS Buzard, la LPO Aveyron et le centre de sauvegarde de Millau. Si vous voulez en savoir plus sur l'action du centre concernant les Buzards, vous pouvez vous rendre sur le site internet qui est centre-secours-faune-sauvage-mio.fr. Ensuite, si vous voulez nous venir en aide sur des actions de terrain ou directement au centre pour les soins et les nourrissages aux animaux, vous pouvez nous contacter par téléphone au 05 65 59 09 87 ou par mail à l'adresse crsfsc@orange.fr. Ensuite, eh bien, la période estivale arrive à grands pas, donc on aura de plus en plus besoin d'aide pour le transport des animaux notamment. Donc si vous faites des trajets réguliers, ben, n'hésitez pas à nous contacter. En effet, il y a parfois des animaux qui mettent plusieurs jours à arriver jusqu'au centre, qui passent par 3 ou 4 véhicules avant de pouvoir être rapatriés sur le centre de soins. Et malheureusement, des fois quand ils arrivent, ben, c'est trop tard pour faire quelque chose pour eux. À la fin, je vais vous parler d'un sujet qui n'a aucun rapport avec le Buzard, mais qui est d'actualité. C'est important de faire une piqûre de rappel. C'est par rapport aux jeunes rapaces nocturnes. Donc, effectivement, ces jeunes oiseaux quittent le nid avant de savoir voler. Et leurs parents ne sont jamais très loin. Donc, si vous observez un jeune rapace qui est au sol, il n'est pas perdu et il ne faut pas le ramasser, il faut le laisser sur place. Sauf si, bien sûr, il est à bord d'une route ou dans un endroit qui peut présenter un danger pour lui. Dans ce cas-là, ben, vous pouvez le ramasser et le déplacer jusqu'à 50 mètres aux alentours. Ensuite, si jamais ben, vous avez déjà ramassé un jeune rapace, vous pouvez toujours le ramener sur le lieu de la découverte si cela fait moins de 24 heures que vous l'avez récupéré. Si par contre, dans le cas contraire, vous l'avez récupéré depuis plus de 24 heures, ça servira à rien de le replacer. Il faudra donc prendre contact avec un centre de sauvegarde pour organiser un rapatriement.
Sachant que dans tous les cas, il faut appeler, même en trouvant l'animal, pour avoir des renseignements, le centre de sauvegarde. Merci beaucoup et puis je pense qu'on se retrouve en septembre. Bon été à tous.